Place à la question du jour. Plus de 300 migrants ont été secourus au large de la Libye par une ONG espagnole alors qu'ils se trouvaient à bord de trois embarcations précaires en Méditerranée. Ces migrants ont été autorisés à débarquer en Espagne par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez après avoir été refusés par l'Italie et Malte. Les routes des migrations sont-elles en train de changer? La péninsule ibérique est-elle la nouvelle porte d'entrée vers l'Europe? Bonjour Virginie Guiraudon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et membre du Centre d'études européennes de Sciences Po Paris. Ces dernières années, les flux migratoires à destination de l'Europe ont suivi des routes différentes. Il y a eu d'abord le passage par la Grèce, ensuite par les Balkans, ensuite par l'Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Espagne est devenue la nouvelle porte d'entrée vers le continent européen? Que nous disent les chiffres sur ce point?
Alors, que nous disent les chiffres, c'est qu'effectivement, cette année, en 2018, à partir de l'été, on s'est rendu compte que l'Espagne était la première porte d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passage, encore évidemment, par ce qu'on appelle la route centrale, et encore d'ailleurs aussi plus à l'est. Mais c'est à peu près presque la moitié, en fait, des flux. Donc, on a les chiffres de fin d'année, entre guillemets, sur les 100 000 personnes qui ont été donc comptabilisées par l'IOM, même par Frontex, 50 000 pratiquement sont allés en Espagne, et puis après, on va dire à peu près 25 000 sur les autres routes. Alors évidemment, le cas que vous évoquez, c'est pas ce cas-là, puisque c'est bien une opération de sauvetage au nord de la Libye, puis un bateau qui arrive en Espagne. Ouais. Ce n'est pas les gens qui sont venus, par exemple, directement depuis le Maroc vers l'Espagne.
Ouais. Mais pourquoi l'Espagne devient un passage privilégié pour les migrants? Est-ce que c'est, disons, par défaut, en raison, disons, des politiques plus restrictives de l'Italie, par exemple, ou est-ce que c'est sous l'effet du changement de gouvernement espagnol avec un nouveau Premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, qui se montre plus souple en matière d'accueil?
Alors, il y a vraiment, comme vous le savez, il y a eu deux grands changements. D'abord, en 2016, un accord entre l'Union européenne et la Turquie. Et puis, bon, dans les Balkans, comme vous le savez, effectivement, des politiques de frontiérisation très très compliquées. Après, avec le gouvernement italien, il y a un accord entre la Libye et l'Italie. Donc, il y a effectivement des raisons qui expliquent pourquoi il y a moins de gens sur ces routes. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'Espagne est un pays d'accueil? Mais en fait, la réponse est beaucoup plus complexe que ça. Pour rappel, l'Espagne n'a pas accueilli son quota de demandeurs d'asile lors du plan de relocalisation en 2015-2016. Et la Cour suprême espagnole...
Mais ça, c'était à l'époque du gouvernement Rajoy.
Oui, mais là, donc ça a été, donc c'est pas... Et depuis, il faut quand même savoir que à partir de cet été, il y a eu des incidents très graves à Ceuta et Melilla, donc ces enclaves espagnoles. Et le gouvernement a réactivé un accord avec le Maroc qui permet de refouler, en fait, les gens immédiatement et de façon collective, contrairement à ce qu'ils doivent faire.
Mais avant cela, Virginie Guiraudon, il y a eu d'abord cette ouverture de Pedro Sanchez qui a ouvert les portes du port de Valence à l'Aquarius, ce bateau humanitaire avec 630 migrants que l'Italie et Malte refusaient d'accueillir. Est-ce que à ce moment-là, on a vu des modifications sur les flux migratoires? Est-ce que cet assouplissement a eu un effet d'appel d'air? C'est une expression qu'on utilise très souvent.
Alors, c'est un peu, si on parle comme ça, ça veut dire qu'effectivement, si une frontière se ferme, une autre route va se rouvrir, c'est-à-dire une ancienne route, la route vers l'Espagne va se rouvrir. C'est un peu vrai, mais il faut savoir aussi ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Quand on regarde qui sont les 50 000 personnes qui sont arrivées en Espagne en 2018 par ces voies maritimes, il y a beaucoup de Marocains, par exemple. Il y a aussi des gens du Maghreb, il y a des gens d'ailleurs d'Afrique francophone aussi, d'Afrique de l'Ouest. C'est pas les mêmes que ceux qui vont partir de Libye en Italie. Donc il faut regarder des deux côtés de la Méditerranée et voir qu'il y a aussi des changements. Les choses vont pas très bien au Maghreb. Il y a eu aussi donc c'est sans doute un mélange des deux, mais il se trouve que effectivement Pedro Sanchez est au gouvernement, mais je pense pas que ils ont dit venez à moi tous les migrants.
Oui, d'autant qu'il y a eu après un geste, une sorte de contre-pied, avec ce renvoi effectivement vers le Maroc d'une centaine de migrants qui venaient de passer en force la clôture de cette acte et cette enclave espagnole sur les côtes marocaines. Les conséquences pour la France, Virginie Guiraudon, parce que face à l'augmentation de ces arrivées en Espagne, les autorités françaises, on l'a vu, ont renforcé les contrôles aux frontières, notamment dans le département des Pyrénées-Atlantiques, où les migrants tentent de passer. Concrètement, que sait-on des conséquences de cette augmentation des arrivées en Espagne pour la France? Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des passages qui effectivement se déroulent à cette frontière?
Non, on n'a pas d'idée. Enfin, je pense que ça serait... en tant que chercheuse, je ne peux pas dire qu'on a une idée exactement. On sait ce qui se passe actuellement. On sait qu'effectivement qu'il y a des passages, qu'il y a des contrôles renforcés. Mmh. Il y a forcément des gens qui arrivent maintenant via l'Espagne, dont les gens qui arrivent à Paris, par exemple. Mmh. Précise, en tout cas la politique de la France n'a pas changé. Ouais. Que ça soit l'Italie ou l'Espagne, nos frontières vont être renforcées.
Et si on fait un bilan un peu général, on est en fin d'année 2018, c'est toujours l'heure des bilans. En 2015, il y avait eu en Europe quasiment 1,8 million d'arrivées. On en est où pour l'année 2018?
Alors, il n'y a jamais eu aussi peu d'arrivées, en fait. On est vraiment encore, par rapport à l'année dernière, encore une baisse de 30%. Donc, les 100 000 personnes dont j'ai parlé, il faut savoir que c'était 150 000 l'année dernière. Il n'y a jamais eu Donc aussi peu de gens qui utilisent ces routes. Et pourtant, on parle toujours de crise. Et surtout, par contre, les routes sont extrêmement dangereuses. Alors, principalement la route dite centrale, c'est-à-dire de la Méditerranée, c'est-à-dire de la Libye vers l'Italie. Mais il y a eu quand même plus de 800 morts sur la route qui va du Maroc à l'Espagne. Donc il y a plus de morts. Et ça, c'est directement lié à la première question que vous m'avez posée sur ces bateaux humanitaires. Donc il y a beaucoup moins de bateaux humanitaires. L'Europe a confié uniquement aux gardes-côtes libyens finalement la gestion de ce qui se passe au nord des côtes. Donc ce sont des routes qui restent extrêmement dangereuses. Moins d'arrivées et plus de morts, c'est ça le constat de la fin 2018.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 1300 migrants sont morts en 2018 en essayant de traverser la Méditerranée. 30 000 personnes sont mortes depuis 2000. Courant décembre, le Parlement européen, Virginie Guéraudon, a demandé à la Commission de présenter avant fin mars une proposition qui permettrait aux États membres de délivrer des visas humanitaires dans leur ambassade, dans leur consulat à l'étranger, afin que les personnes nécessitant une protection internationale puissent atteindre l'Union européenne sans risquer leur vie. Comment ce visa humanitaire très concrètement serait délivré sur le terrain? Par qui? Avec quels critères? Et est-ce que ça vous semble être un bon outil pour éviter précisément cette hécatombe?
Alors, je pense que c'est un bon outil, parce qu'il se trouve qu'il y a plus de 160 universitaires, collègues à moi, qui sont juristes, qui ont travaillé sur un rapport pour que le Parlement accepte de discuter, de voter sur ce visa humanitaire, qui n'était pas possible parce que les visas de court séjour pour aller en Europe, c'est tourisme, etc., il n'y avait pas cette option visa humanitaire. Et il y a donc même eu un cas d'une famille syrienne qui a été au Liban demander un visa pour la Belgique. La Cour européenne de justice a dit c'est pas prévu. Donc, c'est pour vraiment l'idée, c'est de dire les gens pourront aller dans les consulats, dans les pays d'origine ou dans les pays plus exactement comme c'était le cas, donc une famille syrienne au Liban pourrait demander ce visa humanitaire pour ne pas prendre une route dangereuse, qu'elle soit maritime ou terrestre. Donc ça serait une vraie avancée. Et il faut savoir qu'en plus rien n'avance au niveau européen. Donc là c'était quand même un espoir. Ça a été donc c'est le 11 décembre que ce vote a eu lieu au Parlement. On est quand même 3 ans après 2015. Il faut quand même trouver d'autres solutions.
Mais vous y croyez à cette solution? Parce que jusqu'ici, honnêtement, on a quand même l'impression que les Européens, la seule chose sur laquelle ils sont capables de se mettre d'accord, c'est sur le contrôle des frontières. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se mettre d'accord sur un visa humanitaire européen?
Ça sera une des solutions, mais en tout cas, je pense que c'est un des enjeux d'ailleurs des élections européennes, de savoir quel sera le rapport de force sur ces questions.
Mais vous y croyez?
Moi, je suis pas complètement pessimiste. On parle que des populistes, mais il faut savoir qu'il y a eu énormément d'initiatives citoyennes, y compris, par exemple, We Are Welcoming Europe, qui veut que justement la Commission arrête de criminaliser les ONG. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des gens. Là, j'ai parlé des collègues juristes. Nous-mêmes, on s'est mobilisés en sciences sociales pour essayer de faire avancer les choses. Et il y a beaucoup d'initiatives citoyennes. Donc, je pense que c'est peut-être l'image est peut-être moins sombre. Et en tout cas, c'est un des éléments, les visas humanitaires.
Il y a évidemment ces initiatives citoyennes, mais il y a aussi les actes très concrets des États. Vous le rappeliez tout à l'heure, en 2016, l'Union européenne et la Turquie signent un pacte migratoire prévoyant le renvoi des migrants vers la Turquie en contrepartie d'un soutien financier. Depuis, il y a eu de très nombreux accords bilatéraux sur lesquels les États membres ont délégué la gestion des migrants à des pays tiers, au Soudan, au Niger, au Tchad, à la Libye. C'est ça la politique migratoire de l'Europe de demain, c'est externaliser la gestion de l'immigration.
Alors, c'est le cas depuis 20 ans à peu près. C'est la politique officielle à la fois des États et de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'externalisation de l'asile. Ça prend de plus en plus d'importance. Il y a ces accords bilatéraux, mais il y a aussi un énorme fonds européen, dit fonds européen pour l'Afrique, pour le développement, qui en fait est essentiellement sur la question du contrôle des frontières. Beaucoup d'argent investi y compris pour le Maroc, mais beaucoup plus au sud, comme vous l'avez dit, pour le Soudan, par exemple. Donc, l'Union européenne donne de l'argent pour que les frontières soient gardées entre le Soudan et le Niger. Il faut savoir que ce sont quand même des milices qui sont les gardes-frontières. Donc, c'est effectivement, pour le moment, l'essentiel des investissements européens sur ces questions de contrôle des frontières.
Toute dernière question rapide, Virginie Guiraudon. La fin de l'année 2018 a été marquée par l'adoption du pacte dit de Marrakech, qui s'appelle en réalité pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière. Est-ce que vous diriez que c'est une véritable avancée ?
Non, je pense que vous avez eu l'occasion avec Culture Monde d'en parler avec des collègues. En fait, c'est pas une avancée, mais ça résume un peu quel est l'état du droit international et des engagements déjà pris par les États sur ces questions liées aux migrants, parce que les migrants sont des êtres humains, ça peut être des enfants. Donc, ça rappelle en fait les règles qui existent déjà.
Merci beaucoup Virginie Guiraudon d'avoir été avec nous ce matin en studio. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et membre du Centre d'études européennes de Sciences Po Paris. Merci infiniment.